Le colonel arrive un matin froid, et ce jour-là, il commence à pleuvoir. C'est cette époque de l'année où l'univers se fond en monochrome. Gris le ciel bas, gris les hommes, grise la ville et les ruines, gris le grand fleuve à la course lente. Le colonel arrive un matin et semble émerger de la brume. Il est lui-même si gris qu'on croirait un amas de particules décolorées, de cendres, comme s'il avait été enfanté par ce monde privé de soleil. On dirait un fantôme, pense le planton de garde en le voyant descendre de la jeep. Et l'ordonnance se met au garde à vous et se dit que le colonel ressemble à ces hommes qui n'ont plus de lumière au fond des yeux et qu'ils croisent parfois depuis qu'il est là à la guerre. Seul son béret rouge rappelle que les couleurs n'ont pas disparu. Bonjour Emiliane Malfatto.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui et de profiter de votre présence un peu express, j'ai cru comprendre, à Paris. Pour vous présenter très, très rapidement, vous êtes né en 1989, vous avez étudié en France, en Colombie, vous êtes diplômé de l'école de journalisme de Sciences Po Paris et vous avez travaillé comme journaliste et photographe, comme photoreporter indépendante en France, à Chypre, en Irak et en particulier au Kurdistan. Et vous avez été récompensé à plusieurs reprises pour ces reportages et ces photographies. Mais vous êtes aussi écrivain, et c'est la raison pour laquelle nous enregistrons cet entretien aujourd'hui. Vous avez publié en 2020 « Que sur toi se lamente le tigre » publié aux éditions Elisade, qui a reçu le prix Goncourt du premier roman. Et en 2021, et la même année, vous recevez le prix Albert Londres pour un récit, cette fois-ci, « Les serpents viendront pour toi » publié aux éditions Les Arènes. Et vous revenez en cette rentrée littéraire 2022 avec un court texte publié aux éditions du Sous-Sol, intitulé « Le colonel ne dort pas » et dont je viens de lire le premier paragraphe. Vous êtes donc photoreporteur et on peut notamment voir quelques-uns de vos travaux et reportages sur votre site internet. Et j'encourage effectivement les gens qui visionneront cette vidéo à y jeter un œil. Est-ce que vous pouvez, en introduction, nous expliquer d'où vous est venue cette envie d'écrire, sachant que vous utilisez déjà un médium qu'est la photographie pour raconter des histoires?
Ouais, même pour écrire, parce que moi j'aime bien l'idée que photographie c'est écrire avec la lumière, et j'aime bien l'idée de dire qu'en fait on écrit, que ce soit avec la lumière ou avec des mots. Enfin, je trouve ça assez poétique, je pense, comme idée. D'où est venue l'envie d'écrire de la fiction? Alors, la fiction, en fait, non, j'avais pas envie d'écrire de la fiction, j'avais pas l'idée d'écrire de la fiction. J'ai jamais écrit de nouvelles dans des petits carnets ou dans des, je sais pas, dans des journaux du collège. Et la fiction, en fait, m'est tombée dessus. Mais vraiment, ça m'est tombée dessus. C'est-à-dire que j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai pas compris d'où ça sortait. Et c'était, en fait, Le Tigre, c'était le premier roman, et que j'ai quasiment pris en dictée. C'est très bizarre. Ça a été très impulsif, ça a été, je pense, assez cathartique. Et vraiment, cette sensation de ne pas maîtriser. Et puis après, je me suis retrouvée avec ce texte et à dire, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Et c'est comme ça, c'est comme vraiment comme ça que ça s'est passé, quoi.
Très bien. C'est assez original, d'ailleurs, de cette idée, en fait, que tout jaillit. Alors après, dans Le Tigre, il y a quand même, on va y revenir, on va déjà peut-être présenter le roman, mais il y a une oralité, effectivement, et je vois le rapport de ce que vous dites avec ce dictaphone, en fait, cette dictée que vous faites. Un roman quand même très oral, presque des témoignages, en fait, que vous auriez enregistré et retranscrit comme ça. Que sur toi se lamente le tigre, donc qui est votre premier roman, pourrait se résumer très brièvement comme ceci. Une jeune irakienne, enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, attend la mort. Et pour sauver l'honneur de la famille, son frère va devoir la tuer. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce roman? Est-ce qu'il y a eu une image, une photo ou un élément déclencheur qui vous a donné l'impulsion d'écrire sur ce crime d'honneur et sur cette chronique d'une mort annoncée dans l'Irak rural?
Oui, alors il y a eu un événement déclencheur en préface, je vais faire le disque rayé comme je le fais toujours depuis que ce bouquin a fait un petit peu plus parler de lui. C'est l'histoire d'un crime d'honneur qui se passe dans l'Irak méridional et rural, donc une partie de l'Irak qui est très conservatrice. Hein. Ça n'a pas vocation à prétendre dépeindre tout l'Irak, puisqu'il y a plein de réalités en Irak comme dans tous les pays. Et surtout, ce que je veux vraiment souligner, c'est que donc c'était impulsif, c'était tout ça, et je pense que l'action se déroule en Irak parce que c'est une zone que je connais, une zone où je travaille, où j'ai travaillé. Mais attention, vraiment néon qui clignote, c'est que le crime d'honneur n'est pas l'apanage de l'Irak, le crime d'honneur n'est pas l'apanage du monde musulman, n'est pas l'apanage du monde arabe. La notion de crime d'honneur existait dans le code pénal italien, bon, hérité du fascisme, mais dans le code pénal italien jusqu'en 1981, c'est quand même juste à côté, c'est quand même hier. Donc voilà, je le dis parce que après le Goncourt du premier roman, donc il y a eu plus de lecteurs et de lectrices, bien évidemment, et on m'a parfois fait cette réflexion qui était en gros de dire ah, les vilains arabes, ils tuent leurs femmes et nous, quand même, on est vachement bien, quoi. Et non, pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est un phénomène qui est universel. Tuer les femmes, la violence contre les femmes, c'est quelque chose d'universel. C'est un phénomène qui est social et non pas religieux. Et voilà, donc c'est vraiment, je fais le disque rayé, mais ça me semble ultra important parce que voilà, ça me semble très important de souligner ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu effectivement un événement déclencheur qui a été une conversation faite avec un ami dans le sud de l'Irak, puisque c'est une région où je travaille depuis plusieurs années en tant que photographe. Et c'est une région où j'ai beaucoup d'amis. Et j'ai des amis proches, c'est-à-dire on peut avoir des... Bon, moi, je parle arabe, mais on peut avoir des conversations sincères, quoi. C'est pas... voilà, on peut parler de beaucoup de choses. J'ai un ami, ils sont une fratrie, ils sont 12, les familles sont nombreuses, et sa plus jeune sœur est une jeune femme, une jeune fille, qui à l'époque n'était pas mariée, et qui est très jolie, qui est un peu coquette, enfin, voilà. Je sais pas pourquoi, un jour, on était en voiture... avec ce mec et on discutait, je sais même plus de quoi. Et tout d'un coup, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passerait si ta sœur se retrouvait enceinte demain sans être mariée ? Et la réponse a été, sa réponse a été quelque chose, j'ai oublié la formulation exacte, mais quelque chose du style, il faudrait que l'un de nous la tue, un truc comme ça. Ou l'un de nous la tuerait, ou je sais plus comment il a formulé ça. Et c'était avec un peu le temps de dire, c'est terrible, c'est malheureux, mais c'est comme ça parce que c'est comme ça, quoi. Mais parce que de même que si vous prenez les pagnolades, il y a quand même une bonne partie des pagnolades qui sont basées sur des filles mères. Alors peut-être qu'on les tue pas, mais on les exile, mais c'est l'opprobre et tout ça. Donc c'est quand même un truc qui est assez, assez classique, quoi. Le corps des femmes, il y a un gros nœud à ce niveau-là. Et donc il m'a dit ça, et c'était très bizarre parce que c'était mon ami, enfin c'est mon ami toujours, et tout d'un coup c'était ah mince quoi, c'est mon ami, mais il y a aussi cette réalité là quoi. Et je pense que intérieurement ça a créé quelque chose. Et peut-être 5 mois après ou moins, je sais pas, enfin quelques semaines ou quelques mois après, le tigre est arrivé. Voilà.
Alors dans ce roman, on va assister donc sur une journée, en fait, au monologue intérieur de tous les membres de cette famille, donc que ce soit la fille mère, alors qui n'a pas de nom, et ça, j'imagine que c'est aussi pour tendre à une certaine universalité. Justement, c'est elle, la protagoniste principale, mais c'est aussi toutes les femmes qui se retrouvent dans cette situation. Par contre, tous les membres de sa famille sont nommés et parlent les uns après les autres. Est-ce que le fait de faire défiler ces personnages, qui sont tous emportés par un flot qu'ils ne peuvent pas contrôler, que ce soit la mère, que ce soit la belle-sœur, que ce soit les frères, c'est aussi une manière d'expliquer comment plein de tourments peuvent traverser ces personnes qui sont directement confrontées en fait à ce problème-là qui est le crime d'honneur, et aussi de montrer que rien n'est simple finalement et que on est très loin des clichés ouais. Auxquels on pourrait s'attendre.
Ouais, rien n'est simple et peut-être que ça permet d'être un petit peu moins manichéen. Enfin, j'espère en tout cas. Et parce que c'est tous des victimes, en fait. C'est tous des victimes, ils sont tous pris dans un système. C'est comme un rouleau compresseur. Ils sont pris dans un système et ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix. Que personne n'a le choix, en fait. Et c'est pas seulement vrai pour l'Irak. Au final, on vit tous dans un système et on fait tous des... Il y a tous des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Puisque, par exemple, le frère Ali, qui ne fait rien, lui, en fait, il n'agit pas. Mais il y a tous des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas parce qu'on est dans un système, parce qu'on intériorise une norme. Et c'est ça qui est terrible, et c'est ça aussi qui conduit à des choses terribles. Mais ça se passe aussi en France. Enfin, je veux dire, ça se passe. Je veux dire, c'est des. Je pense que si on s'interrogeait tous sincèrement sur des normes sociales, sur des façons de faire, il y aurait des choses à revoir, quoi. Et en fait, c'est ça, on est tous pris là-dedans. Et par exemple, le personnage de l'assassin Amir, moi, c'est un. personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection. C'est peut-être mon personnage préféré parce que c'est un salaud, mais c'est aussi une victime. Et c'est ça qui me paraît intéressant. En fait, c'est trop facile aussi de dire, ah oh là là, quand même, voilà, quel salopard. Et puis on arrête d'en parler. En fait, si on arrête d'en parler, on cherche pas à comprendre. Et si on cherche pas à comprendre, c'est aussi comme ça que les choses n'évoluent pas, quoi.
Ce qui est très marquant dans ce livre-là, c'est que vous touchez à l'intimité du foyer, à l'intérieur de la maison, qui finalement, on connaît en Occident les images de l'Irak, qui sont celles justement des reporters, qui sont les images de la télévision, qui sont souvent des scènes extérieures. Et je parle de scènes parce qu'il y a quand même tout un dispositif aussi. Est-ce que justement, le fait de parler de l'intérieur de la maison, en fait, et des tourments de tous ces personnages-là, c'est quelque chose que vous avez pu faire parce que, de par votre métier, votre premier métier en tout cas de photoreporter, c'est aussi quelque chose que vous avez pu expérimenter, justement cette proximité avec les gens. Et j'aimerais que vous me parliez, si vous le voulez bien, de la couverture du livre, qui est une photo que vous avez, alors on la voit pas très bien à l'écran, mais peut-être qu'on fera un montage après, qui est une photo en fait que vous avez réalisée, que vous avez faite.
Ouais, c'est le détail d'une photo. Puis elle a dédicace aussi.
Oui, on en parlera juste après.
Pardon, j'avance. Voilà, je vais commencer par la photo. la photo, en fait, voilà, c'est le détail d'une image. Sur l'image, notamment sur la couverture, on voit la main d'un, on voit une main qui tient une cigarette. Et ça, c'est la main d'un homme. Et en fait, voilà, cette main appartient à un monsieur que je connais très bien. Qui ce jour-là, en fait, je me rappelle très très bien du jour où j'ai pris cette photo. J'avais une pneumonie, c'était en décembre 2016. Je crachais mes poumons. Je pense que tout le village a cru que j'allais claquer dans ce village du sud de l'Irak. J'étais allée déjeuner chez lui avec quelqu'un, et il y avait toutes ces femmes, et en fait, c'est en Irak, et particulièrement dans les parties les plus conservatrices, on ne photographie pas une femme, on ne photographie pas une femme adulte. En gros, jusqu'à la puberté, ça peut. Après, c'est fini. Et là, il y avait toutes ces femmes, et moi, je trouvais qu'il y avait une scène très, très, très belle. C'était très photogénique. Et j'ai demandé, en me disant, OK, je vais me faire envoyer dans mes foyers. J'ai demandé si je pouvais faire une photo. Et le monsieur, donc le patriarche, hein, puisque c'est quand même eux qui, au final, détiennent l'autorité et donnent l'autorisation, a dit oui. Les femmes ont dit oui. Lui, il a dit oui. Et moi, j'étais, mais c'était Noël. C'était Noël, quoi. Moi, j'étais ravie. C'était, waouh, je peux faire une photo. Et d'ailleurs, elle rit sur la couverture. Elle se cache un peu parce qu'elles étaient toutes, je sais pas, elles étaient un peu intimidées, un peu émoustillées que bon, on les prenne en photo. Et en fait, ça, cet accès à l'intérieur des familles, à l'intérieur des maisons, c'est effectivement quelque chose qui est rare, auquel moi j'ai accès, notamment dans cette région-là, parce que c'est une région où je retourne, c'est une région où je travaille depuis fin 2016, donc ça fait 6 ans, mine de rien, c'est long, parce que je parle arabe, donc il n'y a pas de truchement. Parce que je suis une femme, c'est-à-dire que si j'étais un homme, ça serait impossible. J'aurais pas accès à l'intérieur des maisons, puisqu'un homme représente un peu cette idée. Il y a un peu quand même cette idée que le mâle est un peu un prédateur. Atteint de priapisme, c'est pas le cas, mais un peu l'idée que le mâle est un prédateur et qu'il faut protéger les femmes et que les femmes doivent se protéger. Mais donc, si vous êtes une fille, en fait, il y a pas de souci. Si vous êtes une fille, que vous êtes jeune, que voilà, vous êtes en fait, vous devenez une sœur de plus et une fille de plus. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé, parce que c'est une région dans laquelle j'ai porte ouverte, j'ai table ouverte, j'ai cet accès-là. Et j'ai aussi cet accès-là en photo, ce qui est merveilleux, puisque tellement contente que vous ayez dit ça. Vous parliez des images qu'on voit de l'Irak, c'est toujours des images extérieures, quasiment toujours. C'est toujours des images, il va y avoir des trucs un peu détruits, des impacts de balles, une ou deux femmes en abaya, en mode fantôme, ça va être très noir, très gris, tout ça.
Qu'on voit de loin.
Voilà, qu'on voit un peu de loin, voilà, comme ça, un peu de dos, tout ça. Et on a tous ces images en tête. Et moi, j'ai notamment un projet photographique qui est un projet à long terme, qui n'est pas fini. qui s'appelle Albanat, ça veut dire les filles en arabe. Et ça raconte en fait le quotidien de deux petites filles dans cette région du sud de l'Irak. C'est les filles d'amis à moi, quand je les ai connues, elles avaient 4 et 6 ans. Maintenant, elles en ont 6 de plus. Donc 12 et... Enfin, bientôt 12 et 10. Et c'est un peu les suivre photographiquement et suivre leur quotidien. Et c'est photographier l'intérieur. Et l'intérieur des maisons irakiennes, mais il est rose, il est doré, il est tout ce qu'on veut. Et ça fait des photos hyper joyeuses. Ça fait des photos très colorées. Et pour moi, c'est quelque chose qui fait vraiment sens. Parce qu'en plus, on rentre dans la maison, on rentre dans le foyer. Et ça, pour arriver à faire ça, il faut que les gens vous fassent confiance. Il faut que les gens vous aient oublié. Et ça, c'est le deuxième point. C'est qu'en fait... Moi, j'y passe du temps, j'ai passé un temps fou là-bas. Mais à ne rien faire, en fait, parfois, vous êtes là, et désolé pour le verbe, mais en fait, vous glandez, quoi. Vous êtes là, avec les gens, mais c'est ça, c'est vous buvez du thé, vous jouez vaguement au domino, bon, ok, vous rebuvez un thé, vous discutez, vous machin, vous jouez avec les enfants, et en fait, c'est dans ces moments-là que vous devenez une personne de plus. Moi, j'ai des amis là-bas où je fais partie de la famille, c'est-à-dire je suis là, je suis pas là, il y a pas de différence dans les comportements, il y a voilà, je suis une personne de plus de la famille quasiment. Et ça fait qu'on arrive à toucher du doigt une forme de vérité, quoi, parce que les gens sont naturels et c'est dans toute cette espèce de temps vide, et en fait ce temps vide il est terriblement plein, parce que tout comme le temps que vous passez avec votre famille. Mmh. Et où il se passe rien de spécial, mais c'est ça qui fait qu'au final vous les connaissez si bien, parce qu'il y a eu tous ces trucs où il s'est rien passé d'extraordinaire, quoi. Mais juste c'était être là, et c'est hyper important. Et ça c'est un luxe, enfin, parce que quand on est fait du journalisme classique, on n'a pas le temps de faire ça.
Bien sûr.
Et ou quand on a un traducteur.
Et ce temps-là en fait pour la photographie, s'il faut que vous gagniez la confiance en fait des gens chez qui vous êtes. Alors c'est une question que j'avais pas prévu de vous poser, mais comme vous l'évoquiez, comment se passe justement le moment où vous sentez que vous pouvez faire une photo? Est-ce que vous êtes toujours avec l'appareil à la main, voilà, ou est-ce que tout d'un coup il se passe quelque chose et vous dites là il y a quelque chose à capturer?
Alors ça dépend, parce que là par exemple dans ce contexte spécifique de ce village de cette région du sud de l'Irak, ils me connaissent très très bien. Donc, l'appareil, il arrive, il est posé, les gamins jouent avec, c'est pas un souci. L'appareil, il peut être dehors. Voilà, parce qu'il est entendu que... il est entendu qu'il y a l'appareil. Et parce qu'ils savent aussi que je connais, que je respecte les règles. C'est-à-dire que... Ça, c'est un peu la suite, du coup, de la réponse. C'est-à-dire que, déjà, braquer un appareil... On utilise déjà le terme braquer. Ce qui est intéressant, c'est comme braquer une arme. Ça peut être très agressif, ça peut être très violent. Justement, je ne braque pas mon appareil si je n'ai pas l'accord, mais même non verbal, de la personne. C'est une question de respect. Et puis, voilà, c'est très violent. Les gens peuvent complètement... les gens ont le droit aussi de... Ça peut complètement casser une scène. Après, il y a appareil et appareil aussi. Enfin, vous avez les... Voilà, quelque part, plus l'appareil est volumineux et... Voilà, plus ça va potentiellement tendre les situations. Mais par exemple, si vous êtes. Si là on était en Irak, si là j'étais dans une pièce en Irak et qu'il y avait des femmes qui ne me connaissaient pas, et que je sortais l'appareil et que je prenais une photo où elles n'étaient pas dans le cadre, il y aurait une tension, parce qu'il y aurait l'idée de peut-être qu'elle essaie de nous prendre en photo à la dérobée, tout ça. Ce que évidemment je ne fais pas, mais ce qui peut être une crainte, et ce que je peux comprendre aussi. Et là par exemple, avec ces gens-là, avec ces gens que je connais bien dans le sud de l'Irak, il peut y avoir des femmes plein la pièce. Enfin, celles qui me connaissent, je peux sortir l'appareil photo et prendre une photo. Elles savent que je ne vais pas le faire. Enfin, elles savent que... Elles n'ont pas besoin de me demander si elles ne sont pas dans le cadre, puisqu'elles savent que je ne vais pas le faire. Donc, il y a une forme de... Là, vraiment, il y a une forme de confiance. Ensuite, quand c'est avec des gens qu'on ne connaît pas, il faut prendre le temps, en fait. Il faut prendre le temps. Il faut... faut pas arriver à être en mode... on va prendre une photo. Non, il faut... Ça s'amène, en fait. Mais je l'ai vécu, ça, je l'ai vécu en Irak, je l'ai vécu... je me souviens d'un... j'avais fait une commande pour le Washington Post à Calais, dans la jungle. C'était hyper tendu, parce que les exilés, ils sont traités, mais pire que des chiens, par la police française. Ils sont poursuivis, ils sont traqués, quoi. Et puis, il y a des journalistes... Moi, j'ai vu, en étant là-bas... des journalistes passer et prendre une photo depuis une voiture qui roulait, donc vraiment voler des images, c'est extrêmement agressif. Enfin, je veux dire, c'est voilà, c'est déontologie. Enfin, c'est vraiment, c'est inqualifiable. Ou alors, ce serait qualifiable grossièrement, ce qu'on ne va pas faire. Mais et moi, je m'en souviens très bien. J'avais des appareils qui sont assez petits. Et j'avais un appareil. J'avais dit à mon éditeur du poste, j'avais dit, ok, je fais l'assignment, je suis ravie de le faire. Par contre, il me faut du temps. Je crois que j'avais demandé 10 jours pour le faire. Et pendant les, je sais pas, trois premiers jours peut-être, en fait, je suis allée dans la jungle et j'ai traîné avec les mecs. J'ai traîné avec les mecs, on a discuté. Encore une fois, là, il y a la langue qui fait tomber des barrières. En fait, j'étais là. Et l'appareil, je ne l'avais pas. Ou au maximum, il était dans ma poche parce que je faisais des photos de la ville en y allant, en revenant. Mais l'appareil, il n'était pas sorti. Et à un moment, un jour, on sort, on demande, il y a, je sais pas, il joue au foot. Je peux prendre une photo du ballon, je peux prendre une photo de tel truc. Est-ce que je peux prendre une photo de ça? Tu n'apparais pas. Est-ce que tu veux vérifier que tu apparais? Machin. C'est montrer aux gens qu'en fait, on est digne de leur confiance. Et ça demande du temps et ça demande... Bah déjà, ça demande de ne pas mentir, en fait. Parce que tout bêtement, si on dit aux gens, tu peux vérifier, en fait, sur mon appareil. Et ça m'est arrivé cette fois-là à Calais qu'il y ait quelqu'un, bon, qui, je pense, était peut-être devenu un peu fou avec tout ce qu'il avait vécu. Et il a explosé. Je ne le prenais évidemment pas en photo, mais il y avait des gens qui m'avaient dit « Prends-nous en photo, tu montres nos visages, tout ça. » Et lui, il m'a vu faire ça, et le mec a explosé. Il était très agressif, il avait peut-être bu, je ne sais pas. Et il a exigé, en fait, de regarder toutes les photos de l'appareil. Et moi, j'étais là, mais... regarde-les. Alors, je te laisse pas mon appareil parce que le mec était un peu énervé. Mais j'étais là, oui, il n'y a pas de souci. Tu vas regarder toutes les photos, regarde toutes les photos. Et ça, le problème, c'est qu'il faut pouvoir le faire, en fait. Et donc, voilà, déjà, il faut être respectueux, il faut être honnête et il faut vraiment prendre son temps. Encore une fois, c'est un luxe. Mais dans l'idéal, c'est ça, quoi.
Vous dédiez ce livre à ce que j'imagine être deux petites filles, Tiktoum et Fatma. Et vous précisez,
c'est les deux petites filles du projet.
Ils ne savent pas encore que leur liberté a une fin. Elle est terrible, cette phrase.
Mais parce que la réalité est terrible. Et voilà, c'est quelque chose qui me fend le cœur, c'est les deux petites filles du projet. Qui sont terriblement joyeuses, qui sont terriblement libres, qui en plus sont mignonnes comme tout, enfin voilà. Et c'est de dire, sauf gros changement pour le meilleur, mais je suis pas sûre qu'elles vont pouvoir faire tout ce qu'elles devraient pouvoir faire. Mmh. Et ça fait mal, quoi.
Est-ce que c'est une manière pour vous, que ce soit par la photographie ou par l'écrit, de redonner la parole ou de raconter ce dont on ne parle pas, ce qu'on préfère oublier, que ce soit les femmes et les jeunes filles d'Irak, et voire même toutes les périodes, enfin toutes les zones que vous avez couvertes, ou aussi celles qui sont assassinées dans le silence, hein, c'est ce dont traite principalement Les Serpents viendront pour toi, donc qui est le récit que vous avez sorti l'année dernière, qui traite en fait de l'assassinat d'une Colombienne de 61 ans, mère de 6 enfants, et qui a été assassinée dans sa ferme, et qui s'appelait Maritza Quiros Leiva. Et là, vous faites un travail vraiment de journaliste, c'est une vraie enquête, alors qui est écrite. Comment avez-vous eu connaissance, en fait, de ces assassinats de femmes, ou en tout cas, pas que des femmes, d'ailleurs, il y a aussi des hommes, des assassinats des leaders sociaux en Colombie?
Alors, en fait, la question des assassinats de leaders sociaux, moi, c'était un thème qui me travaillait depuis très longtemps. Donc, j'ai un lien très fort, j'ai un lien personnel à la Colombie, j'ai étudié là-bas, j'ai travaillé là-bas en tant que journaliste. Moi, j'ai commencé comme journaliste dans un quotidien colombien. J'étais encore en Colombie il y a 2 semaines, donc c'est assez présent. Et les assassinats de leaders sociaux, c'est quelque chose qui, pour moi, était vraiment symptomatique de cette violence qui ne baissait pas. Et donc, en 2016, à l'été 2016, il y a eu la signature des accords de paix entre la guérilla des FARC, enfin, pas toutes les FARC, mais une partie de la guérilla des FARC, et le gouvernement à l'époque de Juan Manuel Santos. Et là, il s'est passé une espèce de tour de force de communication qui est que tout le monde a dit, bon, ben voilà, c'est bon, maintenant, la violence est finie, tout le monde peut aller en Colombie, tout le monde va au Tayrona, sur la plage, machin. et il ne se passe plus rien. Et c'est un peu ce qui se passe dans Cent ans de solitude de García Márquez, quand il dit, à un moment, il parle, en fait, il fait référence au massacre que s'appelle la massacre de Bananera, enfin, en fait, qui historiquement correspond à un vrai massacre. Et ils disent non, aquí no ha pasado nada, ici il ne s'est rien passé. Et il y a un peu cette idée de non, ici il ne se passe rien. Il y a un bouquin d'ailleurs qui parle de la violence en Colombie qui s'appelle Aquí no ha habido muertos, ici il n'y a pas eu de mort, une espèce de négation de la violence. Et moi, en fait, tout bêtement, ça me rendait folle que les gens, même quand je voyais les gens, même en France, oui, c'est merveilleux la Colombie, mais c'est un pays hyper violent et ça n'a pas été résolu. En fait, c'est juste ça. D'ailleurs, je fais un peu de l'auto-allumage en parlant. C'est un peu quelque chose qui me travaille. Et je suis quelqu'un d'assez obsessionnel. Donc, quand un sujet m'intéresse vraiment, en fait, il y a un vrai truc. Et en fait, donc cette collection des arènes a été lancée, enfin dirigée par Patrick de Saint-Exupéry, pour qui j'avais pigé en tant que journaliste. Et un jour, il me dit, est-ce que tu voudrais faire un bouquin sur le sujet de ton choix ? Ce qui est un peu le rêve quand on est journaliste, quoi. Et moi, j'ai proposé un seul thème, j'ai proposé un seul sujet, c'était celui-ci. J'ai dit, OK, moi, je veux faire un truc sur les leaders sociaux en Colombie, sur les assassinats. Et dès le départ, dans le mail de pitch, en fait, dans la proposition, j'avais dit, je veux raconter un seul cas. Parce que il y a un peu cette idée de dire, au final, les chiffres, bon, c'est très utile, Mais c'est pas incarné, en fait. Si on vous dit, si les chiffres étaient utiles, les gens ils diraient pas, ah oui, il y a eu tant de dizaines de milliers de morts en Syrie, ah, c'est malheureux, machin. Non, en fait, si moi je vous dis, il y a eu 550 morts dans tel endroit, vous allez dire, ah, c'est malheureux pour eux, et puis vous tournez les talons et vous pensez à autre chose. Parce que c'est pas incarné, parce qu'ils ont pas de visage, ces morts. Et l'idée, c'était de dire, on va incarner un cas. On va raconter un cas avec, du coup, toutes les limitations que ça présuppose, de dire, ça n'est pas universel, c'est un cas qui ne correspond pas forcément, enfin voilà. Mais de dire, OK, on va raconter une histoire, mais on va la raconter bien. Et on va vraiment donner un visage à une histoire. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai en tout cas essayé de faire avec l'histoire de Maritza.
Et ce qui est très surprenant d'ailleurs, c'est que malgré l'enquête qui est particulièrement fournie, le regroupement des sources que vous avez fait, vous montrez aussi l'impossibilité d'accéder à la vérité. Puisque finalement, même si vous avez une hypothèse sur qui serait le commanditaire ou en tout cas les assassins, on sort un peu, presque déçu finalement, de se dire qu'en fait, malgré tout ce travail-là, que la police ne fait pas finalement, qui est de votre fait, la vérité n'est pas faite et que du coup, la famille ne sait pas qui, pourquoi. Qu'est-ce que ça dit en tant que journaliste, presque cette frustration finalement, de se dire, mais tout ça pour arriver à une conclusion où on n'arrive pas jusqu'au bout, enfin, il n'y a pas comme on peut voir dans certains films, où effectivement, ça y est, l'affaire est résolue, comme une enquête policière.
Alors pour moi, c'est, enfin, oui, une forme de frustration, mais je suis aussi contente quelque part de qu'il y ait eu cette honnêteté de dire, on ne sait pas. Il y a des hypothèses, mais on ne sait pas. Parce que c'est aussi la vérité, c'est de dire. Moi, en tant que journaliste, j'ai trouvé ça très intéressant de me retrouver dans ce labyrinthe et qui était un labyrinthe, qui était un casse-tête, qui était parfois à s'arracher les cheveux, de dire, mais attends, je sais plus qui ment, tout le monde ment, tout est contradictoire. Et ça me paraissait important, juste en fait d'être sincère et de dire, la réponse, c'est que en fait, je suis pas parvenue à la vérité. Mais c'est une vérité de dire je ne suis pas parvenue à la vérité. Et ça me paraît intéressant et c'est aussi peut-être un exercice aussi d'humilité journalistique de dire on est journaliste, ok, mais on n'est pas omniscient, on n'est pas omnipotent et je sais pas. Déjà moi j'ai pris une énorme claque journalistique parce que j'ai beaucoup appris. Parce que c'était croiser les sources, mais c'était pas les croiser deux fois, trois fois, c'était les croiser six fois, sept fois, huit fois, revenir, refaire raconter des gens, avoir des interviews, mais je sais pas combien d'heures, poser la même question à différentes personnes pour voir, machin, et c'était fascinant, quoi. C'était une grande leçon de journalisme, et de dire, oui, on peut faire tout ça, on peut essayer de le faire le mieux possible, et néanmoins ne pas arriver à une vérité absolue. Et en fait, peut-être que ça n'enlève pas de valeur en fait au travail de dire on n'arrive pas à une vérité absolue. D'accord, ok, très bien. Mais on peut quand même raconter des choses et on peut dire qu'on n'arrive pas à une vérité absolue. Et c'est pas... c'est pas... voilà. C'est pas que c'est pas grave, c'est grave pour la famille. Parce que la police devrait essayer d'arriver à une vérité absolue parce qu'ils le font pas. La famille ne sait toujours pas. On est en 2022 et ça n'a toujours pas été résolu. Mais je veux dire, dans l'aspect journalistique de la chose, de dire... mais en fait, c'est pas grave de pas y être. Enfin, voilà, c'est quelque part la recherche, encore une fois, d'un point de vue journalistique, hein, pas d'un point de vue légal ou pour la famille. Quelque part, la recherche vaut en elle-même.
Passons à présent au colonel ne dort pas, donc qui est à la raison de notre entretien aujourd'hui. Vous revenez à la littérature si on considère qu'effectivement il y a eu une temporalité dans les sorties entre le tigre, les serpents, et effectivement le colonel. Et contrairement à vos ouvrages précédents, cette fois-ci, on va se retrouver avec des personnages donc qui n'ont pas de nom. Alors vous me direz comme là. La jeune femme irakienne du tigre, mais on suit dans une zone géographique qui est volontairement inconnue, dans une période temporelle qui là aussi est relativement floue. Alors en lisant, on va parler aussi de l'épigraphe, mais en lisant, j'avais moi deux pistes, à savoir est-ce que on est dans une région du Moyen-Orient entre 1980 et 2010. Est-ce que on est dans une dictature européenne ou sud-américaine des années 70? Parce qu'il y a quand même du décorum dans les uniformes. On sent qu'il y a la présence hiérarchique, mais avec quelque chose presque de l'ordre de la caricature, tellement toutes ces médailles, ces casquettes sont grosses, tout est rutilant. Et on va suivre en fait le parcours d'un homme qui est colonel et qui pratique la torture et qui le fait très bien, sans se poser de questions. Et qui pourtant, découvrons-nous au début du récit, n'arrive plus à dormir parce qu'il commence à éprouver des remords, puisque dans son sommeil, les fantômes de ses victimes en fait ressurgissent et viennent le hanter. Ce qui m'a frappé dès l'ouverture du livre, en fait, c'est l'épigraphe. Alors, il y a une citation d'un poème d'Aragon, et puis surtout, il y a cette phrase de Pierre Messmer. À propos de l'envoi de Paulo Sarès à Fort Bragg en qualité d'instructeur des techniques de contre-insurrection, qui est lapidaire et qui est juste, c'était un spécialiste. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette épigraphe, puisque à la lecture, on est de suite plongé dans un imaginaire, dans un imaginaire et en même temps dans une réalité historique, qui est les actes en fait d'Ossarès et la froideur avec lesquelles, longtemps après la guerre, il a toujours déclaré qu'il n'avait pas de remords, qu'il ne regrettait rien, qu'il avait peut-être des regrets, mais en tout cas pas de remords, et que finalement il faisait son travail parce qu'il le faisait bien, et que non seulement il obéissait aux ordres, mais qu'il apportait d'une certaine manière une solution à un problème. Est-ce que revenir justement sur cette violence des hommes, sur cette violence de la guerre, c'est quelque chose qui vous est, j'allais dire, presque indispensable?
Alors, pas de façon réfléchie, mais j'imagine que oui, puisque quand même, bon, les trois livres traitent un peu de la violence, enfin même un peu complètement. Donc, je voilà, c'est quelque chose de cathartique et de pulsionnel, mais je, quand même, en analysant a posteriori, je me rends bien compte qu'il y a des points communs. Donc, il y a mon expérience de la guerre, puisque j'ai été reporter de guerre donc dans le nord de l'Irak, et j'ai travaillé dans d'autres pays compliqués. Je ne me considère plus, je ne me revendique pas comme reportrice de guerre, parce que je ne cherche pas à courir de conflit en conflit. Mais bon, il y a eu une expérience de la guerre, et ça laisse des traces. Il y a probablement des choses qui, à un moment, doivent ressortir. Enfin, parce qu'on on gère ces traumas, comme on peut, en fait. Et moi, visiblement, c'est comme ça. Et puis, il y a un intérêt, il y a une curiosité, je pense, pour ça, pour certaines périodes de l'histoire, pour ce que la guerre fait à l'humain, pour ce que l'humain peut faire à l'humain. Je sais pas, moi j'ai un peu grandi en voyant, enfin montré enfant des films de Costa Gavras, de voir certaines choses. J'ai le souvenir d'avoir vu petite La Déchirure, le film sur le génocide Khmer Rouge. Enfin voilà, je pense qu'il y a eu deux trois choses qui ont sûrement nourri cette curiosité. Et je ne sais pas, on ne va pas commencer à faire de la psychologie de comptoir, mais j'imagine qu'il y a des choses voilà, où il y a un lien. Et après, le colonel, moi, le livre m'évoque différents lieux que je vais pas voilà, qui sont pas forcément, c'est pas forcément, je pense, utile que je les dise, mais moi, ça m'évoque différents lieux, enfin, deux zones géographiques qui peuvent, sans rentrer dans les détails, évoquer effectivement des aspects du Moyen-Orient et des dictatures du cône sud latino-américain. Et l'épigraphe, en fait, la citation de Mesmer, elle a été ajoutée après, parce que ce bouquin-là est arrivé à peu près comme le tigre, donc de façon vraiment, ça a jailli, c'était très rapide, c'était comme le prendre en dictée, vraiment, encore une fois, c'est-à-dire que c'était, voilà, il fallait le coucher sur le papier, et c'était fait. Et la citation de Mesmer, je l'ai rajoutée quelques mois après, parce que j'ai laissé le texte de côté, et ensuite je l'ai rajoutée. Et c'était aussi une manière, peut-être, de mettre un petit... comme de mettre un petit plomb quoi, politique, de dire aussi bon mais en fait voilà on va juste dire ça quoi, on l'ancre pas, on machin, ça peut être intéressant de rappeler ça quoi. Et cette phrase qui est terrible, la phrase de Mesmer, en fait elle est tirée d'un, donc cette interview de Mesmer, si je ne me trompe pas, elle est tirée d'un documentaire de Marie-Monique Robin, qui est un excellent documentaire. Elle a aussi fait un livre qui s'appelle Les Escadrons de la Mort, l'école française, où elle a réussi, à l'époque, je pense, c'était pendant les lois d'impunité de Menem, elle a réussi à... oui, je crois que c'était Menem. Elle a réussi à avoir accès aux militaires, aux militaires de la dernière dictature en Argentine, de 76 à 82. Et les mecs, en fait, étaient en mode, oui, on torturait. Enfin, voilà, et des espèces de trucs. Bon, ben oui, voilà. Et le documentaire est absolument glaçant aussi, quoi. Donc, ouais, c'est une vraie question. Enfin, moi, j'aurais une vraie curiosité. On peut pas avoir accès à l'âme des gens, mais de dire ces mecs-là, en fait, comment ça va, comment ça se passe.
Et pour autant, on arrive à avoir de l'empathie, justement, au bout d'un moment, pour ce colonel, en se disant, mais bon, il a aussi. Mais finalement, comme dans le tigre, c'est-à-dire que c'est plus complexe. Il n'y a pas d'un côté, effectivement, des monstres froids qui agissent sans remords. Ce que je doute malgré tout que ça reste, même si je trouve. Alors intéressant avec beaucoup de guillemets, bien évidemment, mais je trouve que la froideur jusqu'au bout, le fait de ne rien regretter, comme si l'acte de tuer en fait était un acte aussi anodin que de visser un boulon ou de faire autre chose, et qu'on pouvait pas avoir de traumatisme. Or, on sait qu'il y a forcément un traumatisme, il n'y a aucun soldat qui revient de la guerre comme il était avant. Le fait quand même d'avoir de l'empathie pour son personnage principal, de se mettre un peu quelque part d'une certaine manière à la place du monstre. Et du monstre, je pèse mes mots aussi. Hein. Mmh. Est-ce que là aussi, c'est aussi une manière de dire, mais en fait, rien n'est simple. Il n'y a pas rien n'est jamais aussi simple. Hein.
Mais rien n'est simple en fait. Et alors, ouais, c'est ça. Pardon, allez-y.
Non, et je voulais revenir justement sur cette épigraphe, ce que vous venez de dire, le fait que vous le rajoutez à la fin en fait de la rédaction de ce texte-là, qui est jailli. Alors, c'est très, je trouve ça très intéressant en fait, comme vous disiez, en fait, le texte est sorti comme ça, parce qu'il y a des. Il y a des passages, hein, on parlera juste après, qui ont une vraie construction littéraire. Voilà, et ça, à la différence d'un récit plus journalistique où il y a des, on va dire, des notes et tout ça, du travail, et qu'il n'y a plus qu'à remettre les pièces dans le bon sens. Le fait de remettre Osarès en début et de dire en fait, il y a aussi, on imagine le texte ailleurs, dans un ailleurs lointain. Loin de la France, en tout cas, ou même géographiquement et temporellement, le fait de dire, mais en fait, ça a d'abord existé ici, chez nous, il n'y a pas si longtemps. C'est aussi peut-être une manière de... Enfin, vous me direz, justement, de dire, mais ça peut aussi peut-être revenir à n'importe quel moment.
Ça peut revenir. C'est aussi une manière de dire, de rappeler, de dire... ouais, c'est de la fiction. Mais bon, pas... voilà. Enfin, de nuancer ça aussi, de dire, c'est que de la fiction, mais hey, regardez, dans la vie réelle, voilà. Et avec ce côté... voilà, c'est pas une citation, voilà, qui parle, c'est pas une citation sur le Paraguay, c'est pas une citation sur la Syrie, non, c'est la France, c'est Mesmer, c'est un ministre. C'est dire bon bah en fait ouais quoi, ouais. Dire aussi attendez les mecs c'est pas que des très très méchants très très loin quoi. Non, il y a bah, je veux dire je quand même un pays où j'en sais rien moi, où Le Pen fait, je sais même plus combien, fait genre 30% aux élections allègrement, et elle est quand même l'héritière d'un parti fondé par un mec qui a dit ouais, moi j'étais para, j'ai torturé, et je le revendique parce que je suis un vrai mec, quoi. Je veux dire, ouais, des trucs à garder présent à l'esprit quand même, quoi.
J'aimerais qu'on parle juste de la forme du livre, qui est en soi assez proche du Tigre dans sa construction. Alors vous me dites que vous avez, tout à l'heure, vous m'avez dit, je ne fais pas de choix, il n'y a pas de choix, c'est venu comme ça. Or, on suit chapitre, donc il y a une construction parallèle, comme dans le Tigre, où il y avait des passages qui citaient l'épopée de Gilgamesh. Là, on va assister en vers libre à une espèce de monologue intérieur du colonel, justement, et ensuite, le chapitre d'après, construit en parallèle, on va avoir un récit beaucoup plus classique avec un narrateur omniscient et effectivement qui déroule le récit. Vous venez de dire, en fait, tout ça est sorti presque comme un jaillissement. Mais est-ce que vous avez travaillé une partie et puis ensuite une autre, ou c'est vraiment une construction parallèle telle que on la découvre à la lecture?
Non, c'est vraiment une construction parallèle. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de brouillon, mais vraiment. Le premier G, c'est le G final. Enfin, je pense que si je... D'ailleurs, je dois toujours l'avoir sur mon ordinateur. Si je reprenais le document que j'ai enregistré... Parce que ça s'est produit d'un dimanche à un dimanche, en fait. Et je pense que si je prends le document que j'ai enregistré le dimanche soir, quand quelque part, quand ça a été fini, c'est un peu la sensation d'un robinet qui se ferme, quoi. Je pense que les différences avec le texte, enfin avec le livre, quoi, l'objet livre, il y a quelques paragraphes que j'ai étoffés, quelques trucs que j'ai étoffés. La lettre de la mère, par exemple, ça, je l'ai rajouté après. Mais après avoir laissé le texte reposer vraiment longtemps. Mais sinon, c'est pareil, quoi. Enfin, et les passages en vers libre, eux, n'ont, je pense, vraiment pas bougé depuis le début. C'est-à-dire que si j'ai changé 3 mots, je pense que c'est un maximum. Ou 5 mots, j'en sais rien. Mais on est vraiment sur un truc minimal. Et ces passages en vers libre, c'est très bizarre parce que je les entendais, vraiment. Je suis pas schizophrène, promis juré. Mais vraiment, j'entendais la voix. C'est vrai. J'entendais la voix de ce mec dans ma tête. J'entendais le texte dans ma tête. C'est très bizarre. Mais c'est comme ça. Je me l'explique pas tellement, en fait. Et alors que c'est peut-être justement les passages où l'écriture a l'air la plus travaillée.
La plus incarnée. Voilà, oui.
Voilà. Et en fait, non, quoi. Vraiment pas. C'était vraiment un truc où j'entendais ça, quoi.
Et le fait que justement, parce qu'on parle d'incarnation dans l'écriture, donc effectivement ces passages qui soient très très incarnés, et paradoxalement, le fait qu'on ne sache ni son nom, on a très peu de descriptions physiques, tout est gris, il y a quelques éléments de couleur. Est-ce que justement...
Tout est gris, tout est flou,
mais comme d'une certaine manière avec un appareil photo qui serait mal réglé ou quelque chose comme ça, est-ce que justement ce rapport à la couleur, ce rapport à l'image, c'est vraiment un roman qui a encore plus que le Tigre, il y a vraiment une atmosphère esthétique, enfin c'est très esthétisant en fait dans la forme, alors pas d'un point de vue littéraire, mais justement dans les images que ça convoque, il y a un imaginaire visuel très fort dans ce livre-là, plus que finalement dans ce qui se passe, parce qu'il se passe assez peu de choses, enfin il se passe des...
Il
se passe rien dans ce livre, ce qui n'est pas le cas, mais justement il se passe paradoxalement, on est sur un temps qui est beaucoup plus étoffé que le Tigre, parce que le Tigre c'est une journée, là on est sur un temps qui est très flou, on ne sait pas si c'est quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois. On sait qu'il y a eu une guerre, on sait qu'on parle de reconquête. En fait, on est dans ce palais avec des hommes qui ne savent plus pourquoi ils sont là.
Ça s'enlise un peu, quoi.
Ça s'enlise, on entend le bruit du canon et puis on n'entend plus. Par contre, la couleur, elle ne change pas, elle n'évolue pas. C'est toujours gris, c'est toujours flou. Est-ce que, alors que vous travaillez en couleur la plupart du temps sur vos photographies, est-ce que ce travail...
Je faisais du noir et blanc.
J'allais y venir justement pour savoir s'il n'y a pas aussi une déformation professionnelle du photographe qui essaye d'écrire en noir et blanc comme on ferait de la photo en noir et blanc et de jouer sur ces contrastes assez forts.
Alors, moi, je faisais du noir et blanc avant, mais pour moi, ce roman, il est plus lié à une lumière... Enfin, photographie, c'est une discipline, un art, je sais pas quel est le terme employé, mais où la lumière est centrale. Et moi, en plus, je fais partie des photographes particulièrement obsédés avec la lumière. Moi, je suis pénible avec la lumière. C'est-à-dire que, vraiment, je fais partie des photographes qui vont se lever à 3 heures du matin pour avoir les premières lueurs de l'aube Donc, je ne vous raconte pas, quand je travaille en équipe, c'est une catastrophe parce que j'embête tout le monde. Mais c'est très important pour moi. C'est très, très important. Et je regarde le ciel, je suis très sensible à la lumière, ça influe sur mon humeur. Enfin, voilà, vraiment, il y a un truc avec ça, avec la lumière. Il y a ces lumières, parfois, moi, j'ai le souvenir de les avoir vues, ces lumières qui sont très grises. Enfin, pour moi, si ça évoquait une photo, ça évoquerait une photo en couleur, mais une photo avec ses... D'ailleurs, j'en ai des photos comme ça, notamment d'Irak en hiver, où il y a comme ça, il y a un peu de lumière, mais c'est quand même très gris. C'est un peu comme si c'était une photo très désaturée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, tout à fait.
Très désaturée, donc qui est pas du noir et blanc, mais qui est quand même très peu colorée. Et pour moi, ça évoque ça. Et je pense, oui, qu'il y a une déformation professionnelle. Enfin, je suis pas sûre que j'écrirais comme ça si je n'étais pas photographe.
Merci beaucoup, Emiliane Malfatto.
Merci à vous.